C'est l'idée, comment dirais-je, qu'un sampleur, c'est comme un ventre vide qu'on nourrit et qu'on remplit à base de disques, de samples qu'on fait soi-même, de loops, de boucles, de plein de choses. C'est un peu comme une machine à explorer le temps pour moi.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Nicolas Repac. Comment les voix du passé peuvent-elles nourrir les sons d'aujourd'hui? Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés rencontrer Nicolas Repac dans son home studio à Montmartre. Il dévoile, piste par piste, le secret d'un morceau emblématique de son album Black Box, le très hypnotique Already. Already.
Et tous les morceaux du disque sont, je suis parti de documents sonores pour la plupart, qui m'ont à chaque fois donné envie d'en faire un morceau, voilà, de le détourner ou de le transformer ou de le... Souvent, c'est comme un costard que je dessine sur une musique très ancienne qui n'a jamais eu de costard parce que c'est du brut de chez brut. Là, pour le coup, c'est un chant, c'est un hauler américain enregistré par Alan Lomax. Je crois me souvenir que ce sont des dockers. C'est un chant de docks. Already, join the band. Et donc, en entendant les voix, en entendant la force émotionnelle d'un truc comme ça, ça me donne, moi, basiquement, l'envie de fabriquer un morceau à la manière d'un gars qui fait de l'art brut en peinture. C'est-à-dire, j'y connais absolument rien, mais j'ai par contre un désir de m'exprimer très instinctivement. Et puis, des fois, ça fait un morceau jusqu'au bout. Et puis il va sur un disque et puis plein de fois ça reste une ébauche parce que c'est pas intéressant, parce que ça me mène pas là où je croyais que ça me mènerait. Dans Black Box, il y a, je crois, il y a 5 documents qui viennent de chez Alan Lomax. Donc à chaque fois, je suis parti en tout cas de l'émotion. C'est l'idée, comment dirais-je, qu'un sampleur, c'est l'abolition des frontières. C'est-à-dire que quand on est avec des petits copains dans un studio et qu'on fait de la musique, on joue à la vitesse de nos doigts et de nos cerveaux, c'est-à-dire d'une manière très limitée souvent. Avec un sampleur, je peux faire se rencontrer Tom Waits avec des cordes classiques, Ravel, s'entrechoquer le passé, le futur... Il y a plein de mondes qui peuvent surgir, qui ne surgiraient pas si on jouait la musique simplement avec des vrais instruments de musique. Ça vient du fait que ce sont des machines. Et surtout quand on fait des morceaux avec 30 boucles, 40 boucles différentes venant de plein d'endroits différents, on fait forcément plein de rencontres heureuses ou très malheureuses, quoi. Enfin, voilà. Already, join the band. Already, come along and join the band. Already, join the band. Everyone will run, come join the band. Malgré le contexte de travail, de dur labeur, d'esclavagisme qui est une réalité de ces mecs qui chantent, en fait, je trouve qu'il en résulte une extrême bonne humeur. Already, join the band. Hey, run along, come join the band. Already, join the band. My big bull red, come join the band. Il y a un truc guttural, mais plein de bonne humeur, plein d'espoir et plein de... qui te met la pêche. Parce que le blues, c'est toujours, dans l'imaginaire collectif, c'est toujours triste. Et c'est pas forcément la réalité du blues. Le blues est beaucoup plus au second degré. Je l'ai appris en lisant le livre d'Alan Lomax, parce qu'il traduit énormément de textes de blues. Il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup de messages cachés sous un air de parler du chef. En fait, ils parlent de la nana qu'ils ont envie de se tirer et qu'ils ne pourront pas se tirer. Enfin, il y a beaucoup de sexe. Black Box, moi, c'était l'idée de faire un album de blues sans époque, sans âge, et donc pouvant partir à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, africain, américain, en Serbie ou un chaman. C'était l'idée du blues, mais sur le mode du sentiment, comme on dit en français avoir le blues, c'est justement sur ce mode un peu mélancolique. Et celui-là, pour le coup, dans le disque, il a une place un peu plus joyeuse et un peu plus enlevée. Voilà, je dirais ça. Ready. Forcément, c'est des gars qui bossent dur. Donc, je me mets en tête de chercher des tas de sons qui sont un peu des gros sons. Voilà. Donc, moi, j'ai des centaines de samples. Certains qui sont fétiches parce que je les utilise dans plein de morceaux depuis des années. Par association d'idées, en cherchant du bas médium, on va dire, parce que les gros sons, ça va plutôt se situer dans le bas médium, parce qu'ils ont des voix un peu comme ça. Donc je vais essayer d'avoir des sons qui vont résister à la force de leur chant et à la force de ce que j'entends, enfin de l'enregistrement. Et ça m'évoque qui, comme artiste ? Ça m'évoque Tom Waits. Et j'ai une grande collection de samples de Tom Waits. Je me suis dit, bon ben, là, je vais prendre des tas de petits bouts de trucs, de proum, crac, de trucs comme ça. Et je vais les faire tourner à des tempos différents, dans des tonalités différentes, enfin, jusqu'à obtenir cette espèce de marche qui marche avec les voix. Il y a plein de samples. J'en mets en solo. Je fais exprès de faire des coupures. Hein. L'ami Tom, dans sa production, il y a plein de choses que j'adore, moi, qui m'ont toujours semblé mystérieuses. Pourtant, j'ai l'explication, parce que c'est souvent des prises de son très lointaines. C'est-à-dire, au lieu de mettre un micro très près pour avoir une définition clean, c'est souvent des ambiances et des choses comme ça. Il a l'art de mélanger des tas d'éléments percussifs un peu bizarres. Alors, il y a une partie de sa musique qui est très très blues, où il y a beaucoup de choses qui sont très inspirées, je pense. Je pense qu'il connaît certainement tout ce répertoire américain de folk et de musique noire américaine. C'est obligatoire avec la voix, avec cette voix de clochard. Au fil des années, lui aussi, il s'est mis à mettre des samples dans Swordfish Trombone ou dans Frank Williers, ces deux disques que j'ai énormément écoutés quand j'étais jeune dans les années 80, où il y a des sons où ça tape sur des bidons, des cloches, des timbrés, dont on ne sait pas trop ce que c'est, des batteries complètement pourraves. Un jour, j'ai commencé à remplir un sampleur de son. J'ai pris des tas de disques et chaque fois que j'entends un truc qui me plaît, comme tout musicien, bah je le vole, je le prends, je le mets dans mon sac. Je sais pas ce qui va devenir plus tard, je sais jamais trop. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on vole en fait. Et c'est là qu'on est les uns et les autres différents. Parce que moi, forcément, je suis en recherche de quelque chose un petit peu au départ qui m'échappe. Donc c'est toujours les mêmes styles d'harmonie, le même style de son, le même style de... un type de... d'émotion sonore. Voilà. Parce que ça tisse un style en fait au fil du temps. Je me suis dit, un sampleur, c'est comme un guitariste. Quand on reconnaît un grand musicien, on le reconnaît par son style, par son son, par sa phrase. Je me suis dit, bah ouais, mais une machine, c'est, elle a pas de cerveau, elle a pas de sexe, elle a rien, donc c'est moi qui l'anime. Comme un guitariste, le guitariste que je suis, j'ai des choses que je ressors toujours dans un solo, des choses de moi qui... C'est pareil pour la machine, il faut que j'arrive à retrouver un style et que d'un titre à l'autre, il y ait une homogénéité qui soit atteinte. Et voilà. Là, j'ai parlé de Tom Waits, mais il y a, comme je vous disais, dans les années 90, je faisais des samples un peu bruitistes où on utilisait déjà des enclumes. Mais bon, on s'inspirait, je me souviens, en le faisant, des premiers albums de Nine Inch Nails où il y avait des tas de sons indus. J'ai vu à Nantes, à la même époque, Einstuden, j'arrive jamais à dire le nom, Ninebotted, vous connaissez ce qui tape sur des bidons. C'est des trucs aussi qui sont dans l'air du temps à un moment donné, quoi. C'est comme aujourd'hui l'autotune, voilà, il y en a partout. J'habite à côté de Barbès, il y a toujours une bagnole qui passe où j'entends une voix qui fait voilà, c'est un truc qui... Il y a des modes, hein. Il y a des modes, quoi. La basse. Ça, c'est un sample de basse. Il doit y avoir une voix derrière qui démarre, à mon avis, avec un truc de soul. En fait, je lui ai fait jouer tout autre chose. Voilà. Si je joue une ligne de basse avec une basse, je ne vais pas avoir cet ADN. C'est-à-dire que j'aurai une basse jouée par moi, très bien jouée, parce que je pourrais refaire et refaire tant que je ne suis pas bien en place. Mais je ne vais jamais obtenir le rendu fréquentiel que je peux obtenir avec un sample. Parce qu'un sample, quand je rappuie sur la même note, il y a cet ADN qui est toujours le même. Pour toujours. Ce qui me plaît, c'est quand je suis là et que je le joue avec le clavier, selon où je me déplace dans la loupe, je vais obtenir une espèce d'ADN sonore. Et dès que je commence à détuner, à descendre ou à monter, voilà, ici ça devient intéressant là. Parce que le gars dans le disque, il n'avait pas ce son-là. Mais moi, j'arrive à l'obtenir avec sa basse en la jouant une quinte plus haut ou une quinte plus bas. Voilà. C'est tout ça qui me passionne pas mal aussi, quoi, c'est du recyclage créatif. Mais non, parce que je suis assez vieux pour avoir d'abord commencé la musique en musicien, guitariste, autodidacte, enfin... Moi, je rêvais de jazz, je suis venu à Paris parce que je voulais devenir un espèce de guitare héros. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, le rêve. En fait, c'était l'arrivée du sampleur et j'ai eu mon premier sampleur au début ou au milieu des années 90. Donc, à partir de là, ça a été mon second instrument de prédilection qui m'a franchement aussi perturbé dans la façon de voir la musique, de me dire, tiens, je peux atteindre des choses nouvelles. Il y avait le Akai, le S900, S950, le S1000. Il y a eu toute une série qui était très populaire parce qu'ils n'étaient pas chers, qui était très utilisée dans toutes les musiques urbaines des années 90, dans le rap, dans le rock, dans l'indus et tout ça.
Oh, hi, I'm Tim Tobias, and I'm going to give you a hand learning the Akai S900 digital sampler. It's an incredibly powerful and versatile musical instrument, but it's surprisingly easy to use. The great thing about the sampler is any sound you can imagine, you have the power to capture and play musically.
Une fois que j'ai découvert ce que c'était qu'une boucle, le plaisir de prendre un vieux sample, je sais pas, de funk, d'entendre la batterie, de la jouer surtout sur un clavier MIDI. Et de pouvoir la détuner à volonté, c'est-à-dire de la jouer un octave plus bas. De la ralentir à l'extrême ou de l'augmenter. Enfin, les choses basiques du sampling. J'ai découvert tout un monde fabuleux qui n'était pas rattaché effectivement au hip-hop, mais c'était les gars du hip-hop et du rap qui avaient sorti les machines et qui ont fait ça les premiers. Donc moi, j'ai même pas certainement eu la conscience que je devais être un des premiers. Moi, j'avais acheté juste un nouveau joujou et ensuite j'ai basiquement commencé à sampler tout ce qui me plaisait, tout ce qui passait. Et j'avais quoi, 26 ans Enfin, je sais pas quoi. Merde, c'est les autres qui sont des cons. Ils se sont pas intéressés. C'est vrai qu'il y avait un conservatisme, une peur légitime. C'est la même époque où, dans les années 80, les batteurs ont disparu des studios, il n'y avait plus que des boîtarines. C'était quand même révolutionnaire, tout ça, c'est sûr, quoi. Et il y a, par exemple, un disque qui a marqué son temps, mais qui était très critiqué. C'était l'album Tutu de Miles Davis, qui était fait avec machines, boucles. Et les plus consensuels ont dit « Oh là là, c'est pas du jazz, c'est impossible, sacrilège ». Guitare, là on est vers le Mali, visiblement. Une autre guitare. Là on est plutôt. On a changé de fleuve, c'est plus le fleuve Niger, c'est le fleuve Mississippi. C'est américain. Là c'est plus abstrait, mais c'est africain. Alors, ça c'est un sample de moi récupéré, je crois, d'une session avec Arthur. Un truc à rien à voir et qui, enfin voilà. C'est la partie solo, ça. Avec la résolution qui vient de tomber exactement sur le changement d'accord dans mon morceau. Genre d'événement qui n'est pas prévu. Je laisse se dérouler le sample, je découvre ce qui se passe, et au moment où moi je change d'accord, il va changer d'accord. Ça fait partie des rencontres heureuses de ma vie, qui me fait toujours avoir envie de continuer de faire un prochain morceau. C'est comme Frankenstein, hein. C'est vraiment un corps, mais tu sais, il y a le cœur, le poumon, le bras, ça vient de partout. Non, c'est l'imbrication de tous ces éléments qu'on entend sur les grooves qui fabriquent qui donnent l'illusion qu'on entend ces guitares, en fait. Parce que ça reste une illusion, en fait. C'est assez virtuel, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de guitaristes qui ont joué. C'est la rythmique dans son ensemble, avec le petit sample africain qui finit par mettre un mode, par créer un bourdon, en fait. Mais le but recherché, c'est plus quelque chose, c'est la trance. On entend ça, et puis il y a une espèce de truc qui monte trance, et sur lequel vient de plus en plus des accents un peu africains, mais enfin, pas purement africains, forcément. Beatmakers. c'est pour cet ADN dont je parlais tout à l'heure, qui est très précis, qu'on peut facilement mettre 7 samples en les imbriquant, en réfléchissant, je passe un temps fou à ça, pour les faire s'imbriquer, à chercher les correspondances de tonalité, parce que tout ça, il faut le rendre cohérent. C'est là que ça me prend beaucoup de temps, parce que je dois explorer toujours le ventre de mon sampleur, et je repasse sempiternellement les samples, les mêmes. Donc du coup, je suis tout le temps en train de redécouvrir le même sample sous différentes facettes en permanence, quoi. L'orgue, je crois que c'est Lucky Peterson, je crois, un accord de Lucky Peterson, mais alors, qui n'est certainement pas dans sa tonalité. Ou, enfin, c'est... Après, je vous avoue que je m'y perds moi-même des fois... Je crois beaucoup au fait d'être limité, justement. Parce que c'est parce que je me limite énormément que j'arrive à être créatif, je crois. En fait, c'est le paradoxe. Quand j'étais plus jeune, j'avais un studio plus conséquent. C'est-à-dire que j'avais mon sampleur, mais j'avais aussi des expandeurs, synthétiseurs, parce qu'il fallait pouvoir répondre à tout. J'avais plein d'interfaces et j'étais pas forcément plus créatif que le jour où j'ai décidé de me dire « T'as 16 canaux MIDI, t'as un sampleur, démerde-toi, fais un morceau avec ça. » Voilà, je vais pas aller chercher « Ah, il me faut des cordes médiévales. » Je vais plus avoir tendance à abandonner l'idée parce que j'ai pas dans le ventre de mon sampleur un truc que j'ai déjà samplé moi parce que le truc me plaisait. Parce que je tiens beaucoup à ce rapport-là de assez fétichiste, comme je vous disais, de c'est un sample, une texture, une ADN sonore qui me plaît et je la remets et il y a certains samples, vraiment, je les ai utilisés, mais je sais pas, des dizaines de fois, sans jamais me lasser. Tu vois, c'est pas le fait de posséder beaucoup de richesses qui te rend forcément le riche, en fait, voilà. C'est pas parce que t'as une super Gibson que tu joues bien de la guitare, hein. C'est parce que t'es bon, tu vois, tu peux jouer sur une casserole. Je suis toujours seul, moi je suis très solitaire. Hein. J'aurais aimé être, je sais pas, faire un groupe, quoi, parce que la synergie, c'est comme une équipe de foot. Elle se transcende, voilà, c'est ça. Le groupe transcende. Moi, c'est la solitude ne transcende pas. Donc ma solitude est peuplée de fantômes, d'artistes, de gens morts ou vivants. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme sujet. On dit, c'est vrai que la musique, c'est toujours attaché au groupe, à la synergie, enfin, comme le concert, la messe, c'est le côté solennel. C'est un discours qui exclut tous les seuls, les solitaires, les timides. J'espère que le beatmaker, le beatmaking, permet justement de dresser un étendard à tous ces gens riches à l'intérieur, quoi. Mais ça se voit moins que d'autres. C'est-à-dire que je suis extrêmement seul, mais quand en fin de journée, c'est moi tout seul qui ai construit cette armada de trucs de 45 pistes et que ça fait un un truc quand même pas mal, que ça groove, qu'il y a des sons, qu'on voit des images. Tout à coup, tout s'inverse.
Arte. Radio.
Ouais, j'adore le son. Alors, je peux pas le vivre à Paris, le son d'un jardin, avec les oiseaux, les insectes, la nature, l'herbe qui s'ouvre. Enfin, tu vois, ça me fait surtriper le matin.